secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Lily Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Bernard Quentin. Pour nous rencontrer, écrit Jean Vanier, nous devons nous écouter attentivement. Mon Dieu, comme je voudrais pouvoir t'écouter, toi, mon frère, ma sœur. Écoutez le battement de ton cœur, écoutez ces appels faibles, si faibles, ces appels qui sont là, cachés, je ne sais pourquoi, par ta peur. Écoutez, mais au lieu d'écouter, j'ai mes idées à moi, je pénètre, je détruis, je moissonne, pour faire mon pain pour moi-même. Si je n'écoute pas, je reste isolé, je stagne dans mon désespoir silencieux. Bonjour Jean Vanier.
Bonjour.
Et merci infiniment de nous recevoir chez vous, à Trolly-Breuil, pour que nous puissions précisément vous écouter dans ce nouveau volet des grands témoins dans l'émission Les Racines du Ciel. À Trolly-sur-Breuil, c'est-à-dire que nous sommes dans le lieu même où vous avez fondé la première communauté, qui était à l'époque une toute petite communauté de l'Arche, et où vous vivez en fait au quotidien, encore aujourd'hui, 50 ans après, avec des personnes handicapées mentales. Jean Vanier, vous êtes théologien, philosophe, homme de lettres, puisque vous avez déjà publié plusieurs ouvrages, mais surtout, j'ai envie de dire homme de lettres, L'apostrophe, puis après lettres, un humaniste dans le plus profond sens du terme. Vous êtes le témoignage vivant de l'idée que la foi déplace les montagnes. Vous avez en effet consacré votre vie et toute l'énergie de votre foi pour aller à la rencontre des plus faibles, des plus fragiles. Et dans cette rencontre, vous avez, dites-vous, autant reçu que donné, peut-être même plus. Et vous avez fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Vous avez fondé l'Arche il y a 50 ans déjà. Aujourd'hui, 150 communautés sont implantées dans 35 pays, lieux de vie où des personnes ayant une déficience intellectuelle et ceux qui sont venus les aider partagent le quotidien. Bien sûr, nous allons parler tout au long de cette émission de cette aventure-là, puisque l'histoire de cette communauté se confond presque avec votre vie, ou en tout cas avec votre vie d'adulte. Mais vous n'avez pas fait que cela, vous avez aussi créé Foi et Lumière, un réseau d'entraide et de soutien communautaire autour des personnes ayant un handicap mental. Et puis également Intercordia, une association que vous avez cofondée, une association non confessionnelle qui a pour but de former des jeunes souhaitant partir en mission de solidarité. Toute votre vie, vous avez tourné autour de cette idée de vulnérabilité et étrangement, vous l'avez transformée en force. Alors j'ai envie de vous dire, Jean Vanier, est-ce que on peut commencer par évoquer votre enfance? Est-ce que vous avez reçu beaucoup d'amour et c'est cela qui vous a presque conditionné à devenir ce que vous êtes devenu?
On était une famille très unie, donc avec mes parents. Mon papa était un homme assez étonnant. Il avait vécu 3 ans et demi dans les tranchées, pas très loin d'ici, autour d'Amiens, d'Arras. Il a vécu des choses très difficiles dans les tranchées. Et puis, enfin, c'était un homme, et puis on était ici durant la guerre, en 1939. Je me rappelle très bien, étant dans un petit village près de Dieppe, quand on écoutait à la radio comment l'Allemagne a attaqué la Pologne, et puis la déclaration de la guerre de France, puis de l'Angleterre, du Canada, etc. Alors, et puis on était en France, et puis quand les Allemands pénétraient en mai, nous nous sommes échappés, on était avec des milliers de réfugiés, on s'est échappé de Bordeaux. Et puis de retour au Canada, et quelque chose là de très important s'est passé, qui dit quelque chose sur les rapports avec la famille. Je sentais en moi comme un désir impérieux de retourner en Angleterre et d'entrer dans l'école des futurs officiers de la marine anglaise. J'avais 13 ans parce que cette école, c'était pour les gens de 13 ans. Ça m'obligeait à traverser l'Atlantique où un bateau sur cinq était coulé par 400 sous-marins allemands à cette époque dans l'Atlantique. Et bon, évidemment, pour aller en Angleterre, il fallait que je demande à mon papa. Et je rappelle cette conversation, il a tout fait pour me dissuader, qu'il y avait une école, mais on l'aura à 17 ans, pour la marine canadienne, etc. Il m'a écouté, ça s'est terminé, où il a dit simplement, j'ai confiance en toi. Si tu veux le faire, tu dois le faire. Et j'avais 13 ans. Et je me rappelle, bien après, je me suis dit, extraordinaire que mon papa a dit oui. Parce que je partais, quitter la famille où j'avais été pendant longtemps. Mais je crois que le fait qu'il a eu confiance en moi, j'ai pu avoir confiance en moi-même. Je crois que s'il avait dit non, quelque chose aurait été brisé. Je rappelle, il semble qu'il a dit à ma maman, qui sûrement n'était pas très contente, il a dit, je crois, je ne pouvais pas couper ses ailes. Donc, cette maman, je dis toujours que je suis devenu adulte à ce moment-là. Devenir adulte, c'est de faire quelque chose que les parents et la famille ne désirent pas, mais quand même avec leur bénédiction. Et je crois que toute ma vie se repose sur ce geste de mon papa qui m'a dit « j'ai confiance en toi ». Ce qui fait que j'ai pu faire beaucoup de choses après, parce que quitter la famille, partir en Angleterre, entrer dans la première fois que je quitte la famille et d'entrer dans une vie totalement nouvelle dont je ne pouvais aucune idée de ce que ça pourrait être, je crois que ça a forgé ma vie. Cette confiance en soi-même qui devient aussi confiance en Dieu. Parce que toute l'histoire de l'Arche est une histoire d'événements, de choses qui se sont passées. Et je pense qu'un monde ne peut aller mieux que s'il y a une qualité d'écoute de l'autre, de comprendre qui il est, pourquoi il est, comprendre son histoire. Je raconte une histoire qui... C'était la responsabilité d'une de nos communautés en Australie. Elle était ici et elle travaillait autrefois avec les gens dans la prostitution. Et elle me raconte cette histoire un jour et l'autre dans le parc de Sydney où il y avait la prostitution. Il y avait un jeune homme qu'elle avait suivi un peu et qui mourait d'une surdose de drogue. Elle le prend dans ses bras. Et il lui dit, tu as toujours voulu me changer, tu m'as jamais voulu me rencontrer. Donc je crois que rencontrer quelqu'un, c'est prendre le temps. Parce que ce jeune homme, il avait une histoire. On n'entre pas dans la prostitution comme ça. Il y a une histoire, probablement une histoire horrible dans sa petite enfance, dans sa jeunesse, introduit probablement à la drogue, besoin de la drogue. Mais il faut écouter l'histoire, parce qu'on est tous le fruit d'une histoire. Et nos idées sont aussi le fruit d'une histoire, le fruit d'un groupe, fruit de la famille, fruit bien sûr de rencontres et fruit d'une pensée, c'est évident. Mais il faut écouter.
Alors revenons au jeune Jean Vanier de 13 ans, donc qui quitte, non pas sa terre natale, parce que vous êtes né en France, mais votre Canada familial pour l'Angleterre. Alors pourquoi vous avez eu ce désir? Pourquoi vouloir aller être officier en temps de guerre?
C'est difficile de dire. Pourquoi jaillit un désir? Un désir de cet ordre-là, qui était impérieux. Je n'ose pas dire pourquoi on peut trouver des choses psychologiques, parce que dans la famille, d'abord peut-être, parce que j'étais le moins intelligent de la famille. peut-être mes deux frères étaient beaucoup plus capables que moi. Peut-être c'était je luttais pour avoir une place, mais de le faire la façon dont je l'ai fait, je ne peux pas comprendre. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très profond sur la conscience personnelle. Dans le Concile Vatican II, il est dit ceci. La dignité humaine vient dans chaque être humain comme la conscience personnelle. Cette conscience, c'est le sanctuaire sacré dans chacun, dans chaque être humain, qui écoute la voix de Dieu pour l'indiquer le bien qu'il faut faire et éviter le mal qu'il ne faut pas faire. Donc, le sanctuaire sacré où entend une murmure pour faire quelque chose. Et moi, je tendrais à dire avec l'expérience que j'ai que cette murmure intérieure qui est devenue un désir pressant, c'était quelque chose qui était dans ma conscience personnelle. Et j'oserais dire comme un appel de Dieu.
Oui, alors c'est ça qui est curieux parce que on s'attend pas maintenant, après avoir, quand on connaît le Jean Vanier d'aujourd'hui, on est très étonné que ce murmure intérieur se soit manifesté sous la forme de vouloir devenir officier, oui. C'est-à-dire au fond entrer dans une carrière dans laquelle on est amené à faire la guerre, on est éventuellement amené à tuer. Et alors peut-être que c'était le contexte aussi, c'était l'idée d'une défense. Peut-être qu'à l'époque, à cette époque-là, faire la guerre, c'était évidemment défendre la civilisation contre la barbarie. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose de cet ordre ou...
C'est tout ce que je peux dire.
Oui.
Mais tout en disant, je pense qu'il y a des mystères dans chacun de nos vies, et je suis sûr que cette force avec laquelle j'avais pour entrer dans la marine était aussi 8 ans après une certitude que je devais partir. Et X années après que je devais commencer l'arche. Donc, je dirais ça m'a mis sur la route de quelque chose qui était de la confiance en soi-même. Ouais. Quelles sont les raisons psychologiques, humaines, on ne saura jamais. Mais pour moi, personnellement, je ne peux pas déconnecter cela de tout ce qui s'est passé à l'Arche.
Alors, vous voilà donc parti en Angleterre, dans cette école d'officiers. Comment feriez-vous le bilan de cette période ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris dans cette école d'officiers, à part juste de devenir officier, mais profondément, humainement ?
Grande camaraderie, un développement du corps. Je dirais que je n'ai pas vécu de l'adolescence. Parce que en 42, 43, on était tous tournés d'aller sur le bateau, les bateaux de guerre. Donc il y avait une intensité de vie et de désir. Mais en même temps, je dis le développement du corps, le développement des connaissances, pas beaucoup, la navigation et des choses de cet ordre-là, mais beaucoup de sport. Mais enfin, un développement humain. De responsabilité, très jeune à l'école navale, on devenait responsable d'un groupe. Donc, développement de responsabilité.
Et pourtant, quand vous arrivez à l'âge où normalement vous devriez devenir un officier de plein exercice, si je puis dire, eh bien, finalement, vous quittez cette carrière.
Mon dernier bateau, c'était une porte-avions. J'aimais beaucoup. On est parti de porte-avions pour faire des exercices avec la marine américaine. J'étais à Cuba, j'étais à New York. New York, c'était quelque chose de très important parce que à New York, j'ai visité un lieu que Thomas Merton avait visité.
Ah, oui.
Et c'était une petite communauté dans le quartier noir de Harlem à New York. Et dès qu'on était arrivé à New York, j'avais lu, j'ai allé visiter, j'étais très touché. C'était une communauté là, au cœur de mon difficile Harlem 1950. Mais en même temps, il y avait une telle joie. Je rappelle, partant du bateau, je m'arrête chez une boucherie, j'achète un gigot d'agneau. Et j'arrive le jour de Pâques où ils n'avaient pas beaucoup à manger, j'arrive avec mon gigot. Enfin, je faisais partie de ce groupe et très peu de temps après, le bateau est rentré et j'ai écrit ma lettre de démission. Parce que quelque part en moi, je sentais le besoin de m'engager, non pas dans le monde militaire, mais dans autre chose. Et je présentais que l'Évangile, avec Jésus qui avait une mission d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et cette bonne nouvelle, c'est que les pauvres ont une valeur, ils sont importants. Alors il y avait quelque chose en moi, un désir de quitter le monde militaire pour entrer pour suivre Jésus. Et de fait, à cette époque-là, suivre Jésus, c'était probablement devenir prêtre. Donc quand je suis parti, c'était de chercher là où je devrais progressivement découvrir où était ma mission dans la vie.
Et alors vous avez cité Thomas Merton, peut-être dire deux mots à nos auditeurs de exactement qui il était, parce qu'on comprend évidemment le lien entre vous et cet homme extraordinaire.
Thomas Merton est un homme qui est devenu trappiste, mais il avait une influence colossale aux États-Unis, dans l'interreligieux, dans la recherche, je dirais, pour une église plus ouverte, plus proche des gens, pas une église trop fermée. C'était un homme à la recherche. Et il était très proche des monastères bouddhistes et d'autres monastères. C'est là où d'ailleurs il a trouvé la mort, dans un congrès avec les moines interreligieux. Et c'était un chercheur de Dieu et chercheur d'une église ouverte, libre, une église proche des gens. Et son livre, dont j'oublie en français, c'est en anglais « Seven Story Mountain » ou « Elected Silence » en Angleterre. Mais il m'a profondément touché. Et quand il avait peut-être 20 ans, quand il était, ou peut-être un peu plus quand il était à New York, et moi j'avais 20 ans aussi, donc j'avais la vie devant moi et des désirs de faire quelque chose qui sera de l'ordre toujours de la liberté.
Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar.
Alors il y a, nous dites-vous, Jean Vanier, ce désir d'engagement, ces rencontres aussi qui ont ensemencé votre âme d'une certaine façon. Et donc vous quittez la marine et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous intéresser à la théologie, où très vite ça a aussi été pas seulement une quête intellectuelle, je dirais, mais aussi une quête pratique, enfin quotidienne,
oui,
de tous les jours.
C'était une recherche. Je suis allé dans une communauté près de Paris où il y avait du travail manuel, où on suivait des cours. Enfin, il y avait à peu près 70 étudiants de différents pays et puis beaucoup d'Arabes qui étaient là. Et donc c'était une vie comme un lieu de réflexion, de travail communautaire. Et j'ai découvert la joie de la vie communautaire, manger ensemble, avec tout ce que ça implique, des réflexions, des discussions. Je crois que j'ai pressenti la joie d'être avec d'autres. dans une recherche d'une vision et d'une mission.
Oui, et donc c'est déjà dès ce moment-là, vous n'avez jamais été tenté par une entreprise monastique, par exemple, de vous retirer, d'être uniquement dans une communauté.
Si, j'étais tenté. Et de fait, j'étais tellement tenté que je suis parti à la Val-Sainte, une chartreuse dans le canton de Fribourg, où j'ai passé 10 ou 12 jours. J'étais très attiré par les chartreux, qui sont des ermites vivant ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai découvert là que c'était pas ça. Donc, la tentation s'est vite évaporée.
Oui, vous avez besoin quand même d'engagement toujours, d'engagement avec les autres, dans la vie.
On accueillait des gens pauvres qui passaient. Oui. Et puis en même temps, je faisais des études et j'ai commencé finalement des études et un doctorat à l'Institut catholique de Paris, qui finalement a abouti à un doctorat sur Aristote que j'ai beaucoup apprécié, aimé, pour m'amener à réfléchir et à penser, tout en disant que je ne peux pas dire que je suis aristotélicien, mais je dirais que c'est Aristote est quelqu'un parce que c'est le primat de l'expérience. Il faut regarder le réel. Et même on dit qu'il comptait tous les arrêts dans un poisson parce qu'il avait un goût du savoir et puis de mettre tout cela dans une synthèse et une réflexion. Donc j'étais beaucoup... Et de là, ça m'a conduit finalement on m'a offert un poste dans l'Université de Toronto. Mais avant cela, j'avais passé 3 ans de solitude dans un monastère trappiste dans l'ouest de la France, et puis dans une petite ferme dans l'Orne, et finalement à Fatima, où j'ai passé 2 ans. J'étais encore dans un désir à la fois de finir ma thèse, et puis un désir de vie de prière et de rencontre. Ça aboutit à ce qu'on m'invite à donner des conférences à l'Université de Toronto sur la morale.
Oui, alors vous avez dit, vous avez prononcé le mot, je voulais y venir, vous avez dit une vie de prière. Oui. Et en fait, c'est vrai que le fait que votre image publique, en fait, soit l'image d'un homme très engagé, très actif, très, très tourné vers les autres, n'exclut pas le fait que vous avez été, depuis déjà votre plus jeune âge et vous continuez encore, d'être un homme d'oraison, un homme d'intériorité, un homme de prière, prière qui nourrit votre énergie vitale, je dirais, quand vous voulez aller vers les autres. Et on le voit d'ailleurs dans ce très beau livre qui est une réédition, dont j'ai cité un poème tout à l'heure. Ça s'intitule « L'arme de silence, une méditation ». C'est accompagné de photographies de Jonathan Boulégrou et une préface, une très belle préface de notre ami Frédéric Lenoir. Et on voit dans ce livre qu'en fait, ce sont comme des poèmes, mais ce sont comme des méditations, des oraisons. Très souvent, vous vous adressez à Dieu. On voit bien que vous avez cette pratique quotidienne, presque permanente, de l'attention dialogue, enfin de ce qu'on appelle dans la tradition l'oraison, avec ce Dieu qui vous habite, qui vous inspire et à qui vous vous adressez au fond pour résoudre vos questionnements.
Oui, c'est évident que j'étais toujours attiré, je dirais, par l'intériorité. Une intériorité dans la certitude que Dieu habite en moi. Et à l'intérieur de tout le mystère, je dirais, de la foi chrétienne, de l'Eucharistie, de la communion. Et Jésus dit que celui qui mange ma chair et moi mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc, depuis toujours, il y avait ce désir de prendre du temps de silence, d'être nourri par une silence où il y a présence. Et c'est évident que tout ce que j'ai vécu il y avait cette nourriture quotidienne et évidente, et toujours. Il y a une phrase dans l'Apocalypse, dans le troisième chapitre, où le Seigneur dit « Je me tiens debout et je frappe à la porte. Et celui qui m'écoute ouvre la porte, j'entrerai pour manger avec lui et lui avec moi. » Donc j'ai toujours espéré, parce que c'est un cheminement, d'être à l'écoute quand Dieu frappe à la porte de mon cœur. Et je reviens là sur ce que j'avais dit sur la conscience personnelle, que la conscience personnelle, c'est cet sanctuaire sacré dans chaque personne où Dieu lui parle pour indiquer le chemin à prendre pour l'amour et à se détourner de tout ce qui est de l'ordre du mal. Donc ça a été, je dirais, même avant ma démission de la marine, un désir d'écouter la voix secrète de Dieu. Quand surtout le danger, c'est qu'il y a d'autres voix qui crient, des voix de peur, des voix de désir, de pouvoir, etc. Donc c'est toujours une lutte. Etty Hilsum, c'est une jeune femme juive pour qui j'ai énormément de respect, était dit qu'il faut prendre une demi-heure par jour de silence. Et à partir de là, elle parle beaucoup de la petite voix. Elle dit aussi qu'il faut prendre une demi-heure de gymnastique. Je ne sais pas si je fais une demi-heure de gymnastique, mais au moins, je fais au moins une demi-heure de silence, qui est une silence, qui est une recherche de présence. Et de paix, de repos. Pour moi, la prière est une rencontre avec une personne, avec Jésus, et c'est aussi un repos. C'est un lieu aussi où je découvre qu'il y a plein de choses en moi qui doivent changer, que je dois grandir dans son amour et entrer dans l'Évangile, parce que toute ma vie, c'était pour vivre l'Évangile. Et Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Enfin, il y a comme une exigence de paix. Et je crois que tout cela était au fond de tout mon cheminement vers l'arche et d'accueillir des personnes qui ont été les plus abusées, les plus rejetées, les plus humiliées. Il faut se rappeler que pendant des siècles et des siècles, les personnes avec un handicap étaient vues comme une punition de Dieu, et que les parents devaient avoir une honte. On voit ça même dans l'évangile de Saint Jean, où les disciples voient un homme né aveugle et ils disent « Mais il est né aveugle à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents ?» Jésus réagit vite « Non, pas question de péché !» Mais il faut voir que pour beaucoup de personnes, et pendant longtemps, 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 les personnes avec un handicap étaient enfermées dans des institutions, parfois, où il y avait beaucoup de maltraitance, et les parents. Juste dernièrement, il y a une communauté au Canada, dirigée par quelqu'un que je connais bien, et elle m'a dit, et ceci c'est il y a à peu près 10 ou 15 ans, elle créait un deuxième foyer. Et puis, il y avait une institution qui se fermait, et l'institution demandait à Marie-Antoinette si dans le nouveau foyer, elle accepterait d'accueillir Louis. Elle a dit, ben, je suis prêt à l'étudier. Elle prend le dossier, elle voit les frères et sœurs. Elle téléphone les frères et sœurs, et aucun savait que leur grand frère était dans cette institution. Donc, ça montre la peur que des gens avaient des personnes avec un handicap. Et ce que j'ai découvert, c'était le drame des personnes avec un handicap dans certaines institutions que j'ai visitées. Et puis on a commencé à vivre ensemble, j'ai accueilli deux, et c'était super.
Voilà, et ça, c'est le début de l'aventure de l'Arche.
C'est le début de l'aventure.
Voilà, c'était en fait deux personnes que vous avez rencontrées. Comment ça se fait d'ailleurs que vous êtes allé dans cette institution?
C'est des parents, parce que j'ai commencé à visiter les hôpitaux psychiatriques ici, à Clermont-de-Loise, où il y avait 1000 personnes avec un handicap à cette époque-là. Et j'ai visité l'HP de l'Aisne, et puis j'ai rencontré des parents, parce que j'ai commencé à découvrir un monde que j'ignorais totalement. Et puis je découvrais que c'était un monde de souffrance, de rejet, et des parents m'ont indiqué d'aller voir cette institution qui n'était pas très loin de Meaux. Et je suis allé, et il y avait 80 hommes enfermés dans un ancien monastère Clarisse, fait avec beaucoup de béton, très froid à l'intérieur. Ces 80 hommes étaient en deux dortoirs de 40. Il n'y avait pas de travail. Et quand je les visitais, c'est mystérieux. À la fois, je me sentais attiré et en répulsion. Je ne comprends pas. Une attirance vers un monde de souffrance, un monde horrible, finalement. Parce que c'était des êtres humains. J'ai vu ça déjà dans des attirances, dans des lieux épouvantables, une attirance mais une répulsion. Et je ne sentais pas du tout que je devais entrer là-dedans ou m'engager. Et tout ce que je pouvais faire, c'est d'accueillir deux personnes qui n'avaient pas de famille. La responsable de cette institution était très contente parce que les autorités départementales lui avaient demandé de réduire de 80 à 40 parce qu'elle avait dépassé. C'était une femme très généreuse qui accueillait pour soulager les parents, mais pas pour le bien-être des personnes avec un handicap. Bon, j'ai donc accueilli deux personnes avec des amis. J'ai très peu cher acheté une petite maison ici à Trolley. Et c'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec Raphaël et Philippe, deux hommes merveilleux que je ne connaissais pas, mais on a commencé à se connaître. Eux, c'était une libération de cette institution douloureuse. Et on passait beaucoup de notre temps autour de la nourriture. On achetait la nourriture, on faisait la cuisine, on prenait du temps à manger, faire la vaisselle et pratiquement le temps à préparer le prochain repas. Et quelque part, au cœur du repas, dans l'Évangile, Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille, n'invitez pas les amis, n'invitez pas les riches voisins, c'est-à-dire n'invitez pas votre groupe. Mais quand vous donnez un très bon repas, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez heureux, bienheureux. C'est une béatitude. Et cette béatitude, c'est que si vous devenez un ami du rejeté, votre cœur est changé. Vous découvrez autre chose. Vous sortez de votre groupe, peut-être un peu sectaire et enfermé, où vous savez que vous avez raison, pour vous faire entrer, je dirais, dans les souffrances du monde.
expliquez-vous ? Parce que quand vous le dites comme ça, ça crée une sorte de d'élan dans celui qui vous écoute. En l'occurrence, moi je vous écoute, mais je crois que nos auditeurs aussi. C'est-à-dire il y a quelque chose qui, d'un coup, on se dit, mais bien sûr, c'est une évidence. Et en même temps, on peut pas, la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous, nous n'arrivons pas à faire ce pas.
Oui.
Qu'est-ce qui nous empêche ? Quel est le... D'abord, peut-être qu'il faut analyser ce qui nous empêche de faire ce pas, et puis ensuite de dire, mais qu'est-ce que je dois changer en moi pour être capable de cet incroyable accueil ?
Oui, c'est exact. Au fond, il y a beaucoup de peur. Et puis, il y a une culture de peur. La culture de peur, c'est qu'il faut que chacun, individuellement, réussisse avec le soutien de sa famille et de son groupe. Il y a une culture de la réussite, la culture des connaissances, une culture de promotion, une culture du succès, enfin, une culture de gagner. Et là, à ce qu'on tient une culture de gagner, et tous ceux qui ont perdu. Et donc, il y a dans la culture une culture de chercher à gagner, mais aussi une culture de dépression. Je vois beaucoup de jeunes, où est l'avenir, suivent des cours, oui, mais après, quel est le pourcentage de gens qui n'ont pas de travail ? Enfin, il y a une culture de désespoir. Donc, je comprends. Alors, d'abord, et puis beaucoup de personnes se défendent de connaître la réalité de notre monde. Dans notre monde, il y a, on dit, 2 milliards de gens vivant dans des bidonvilles. Je pense que le chiffre est un peu élevé. Mais dans un texte que j'ai vu, qu'il y avait 100 000 personnes par jour qui entrent dans les bidonvilles. Enfin, en Afrique, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Pourquoi ? Parce que vivre dans le petit village, pour beaucoup de gens qui voient la télévision, il faut quitter le village. Et puis, ils vont vers les grandes villes de l'Afrique, de l'Amérique latine. Donc, il y a une culture du désespoir. Et cette culture du désespoir, c'est fait la culture des immigrants. Et on est plein dedans. La culture du désespoir, c'est tous ces réfugiés qui viennent de Syrie, etc. Alors, il y a un danger de ne plus vouloir regarder la télévision parce que ça fait trop mal. Donc, il y a la culture de la peur, la culture de la dépression, etc. Et les gens ne réalisent pas que si vous rencontrez quelqu'un qui est seul et vous devenez un ami, lui changerait, mais toi aussi. Je dis quelquefois à des jeunes, tâche de rencontrer un homme ou une femme qui se sent seul. Et vous devenez pour lui le Messie, parce qu'il t'attend. Toutes les semaines, vous amenez des fleurs ou quelque chose. Les gens crèvent de trouver des gens qu'ils aiment, crèvent pour une rencontre qui leur donne vie.
Alors, c'est ici même, dans cette maison où vous nous accueillez, que vous avez commencé à vivre?
Non, c'est pas dans celle-ci, c'est un peu plus haut dans le village. Ici, c'était une maison qui accueillait quelques personnes avec un handicap. Et puis, les autorités départementales ont voulu que les chambres pour les personnes avec un handicap soient d'une certaine taille, et on n'a pas pu aménager cette maison-ci. Donc, ne sachant pas très bien quoi faire avec cette maison, ils l'ont aménagée pour moi. Alors, de fait, la maison où j'ai commencé, c'est au fond de la rue, et là encore, ça a subi des changements, etc., de ce qu'elle était en 64.
Mais vous continuez à... Oui, c'était en 64, mais vous continuez à accueillir des gens et à vivre quotidiennement avec eux, partager les repas précisément.
Oui. Pas dans cette maison-ci, mais je mange tous mes repas dans un foyer qui est à 50 mètres là, et je mange tous mes repas, et pratiquement je ne voyage plus, j'ai de la joie, et je suis maintenant dans le même foyer depuis 81. Donc ce sont des hommes et des femmes, certains qui ont maintenant 65 ans, qui sont à l'Arche depuis 40-45 ans, enfin on se connaît bien. Alors j'ai ma joie de vivre là. La grande chose avec la personne avec un handicap, c'est qu'ils ont le droit d'être un peu fous. Nous, on est dans ce monde où il est très structuré, il faut être normal, il faut être poli, etc. D'aller dans mon foyer, Pauline se jette dans mes bras et dit « tu es le plus bel homme du monde ». Elle dit ça à chacun, c'est pas pour moi. Mais il y a une capacité de rencontre, d'amour, de simplicité. Enfin, les personnes avec un handicap mental, leur force, c'est leur cœur. Ils ne sont pas encombrés par une tête qui oblige constamment de penser, d'avoir... Ils n'ont pas énormément de tête dans le sens qu'ils puissent avoir une grande responsabilité ou être à l'université, mais ils ont des cœurs. Le désir des personnes avec un handicap, c'est la soif de la rencontre. Beaucoup d'autres jeunes, ils sont projetés dans l'avenir. Les personnes avec qui je vis, l'avenir n'est pas un problème. Le passé n'est pas un problème. C'est le présent qui est important. Et le présent, c'est la fête, c'est d'être ensemble. Au fond, c'est le sentiment que l'être humain est fait pour la célébration. Mais le danger dans nos sociétés, c'est que l'être humain est fait pour la concurrence, qui devient très vite la guerre, le désir d'avoir plus, et tant pis pour ceux qui en ont moins.
Et aussi, vous en avez parlé tout à l'heure en disant, ici vous ne pouviez pas accueillir des gens parce qu'il y a des normes, je suppose, de taille, de sécurité, etc., qui d'une certaine façon, on a l'impression que même les autorités, au lieu d'autoriser ces lieux où soudain il peut se passer quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, mettre des bâtons dans les roues. En réalité, ce monde met sans cesse des bâtons dans les roues de la folie qu'on voudrait de temps en temps rencontrer.
Oui, je ne dis pas, parce qu'en même temps, ils nous donnent à manger. Ils nous donnent ils nous donnent pour nos communautés des millions d'euros. Mais les autorités, ils ont leurs exigences professionnelles, et qui n'est pas mauvais. Leur difficulté, c'est de comprendre la vie communautaire, la qualité de la relation. Mais je crois que nous dépendons de nos conseils généraux. Et en général, nos conseils généraux, les inspections, voient. Ce qui est important, c'est qu'ils peuvent venir et voir que les gens sont heureux. Ils sont heureux parce qu'on a des ateliers de travail. Ils sont heureux parce qu'il y a une vie et qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'engagent. Actuellement, avec le gouvernement, il y a les volontaires civiques. Mmh. Et dans l'Arche, il doit y avoir autant que 350 volontaires civiques. Ces jeunes volontaires ne sont pas beaucoup des hommes et des femmes de foi chrétienne, parce que les jeunes, mais ils ont des cœurs généreux, des cœurs bons, et puis des cœurs qui aiment la fête. Donc les jeunes aiment un peu la folie, les adultes un peu moins, les adultes plus âgés. Donc la création des lieux de rencontre, de fête, où le cœur de tout est le repas.
Bien sûr.
Et donc il y a quelque chose, et ces jeunes, et je crois que même, je dirais que le conseil généraux, c'est difficile aujourd'hui de commencer de nouvelles communautés, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, les conseils généraux, mais je dirais le conseil généraux, en gros, surtout depuis une quinzaine d'années, soutient l'Arche, parce qu'il voit Il voit le résultat et les fruits de ce que nous vivons et les gens sont heureux. Et puis on encourage beaucoup nos gens à progresser, à grandir dans le travail, grandir même pour certains de se marier, etc.
Et vous avez donc été vous avez eu du mal à trouver ces soutiens ou dès le début quand vous avez commencé? Je disais au début, en fait, votre foi a déplacé des montagnes, parce que c'est quand même inouï qu'un homme seul, avec juste deux personnes, décide de s'installer quelque part, et que plusieurs, et que à 50 ans plus tard, il y a quand même des communautés de large dans le monde entier. Il y en a.
64 est une année extraordinaire. Expansion économique, l'État qui cherchait des promoteurs, c'était le Conseil Vatican II. Et puis, c'était les années d'une recherche communautaire. Ça, c'était fou. Aux États-Unis, en Angleterre, la France, ça a abouti à un 68. Mais il y avait d'autres derrière, des gens qui voulaient vivre ensemble avec quelques chèvres. On vivra dans les montagnes et on sera heureux pour le reste de la vie. Donc, il y avait une sorte de cri pour être ensemble, sans autorité, etc. La vie communautaire n'est pas si simple que les gens croient. Mais c'était le moment. Alors, l'expansion était facile. L'État l'encourageait, l'Église l'encourageait, les jeunes étaient à la recherche de nouvelles formes de communauté. Ça, c'est 64. Maintenant, 2015, les jeunes ne sont plus à la recherche de même type de communauté, de vivre avec les pauvres. Les jeunes ont beaucoup d'autres communautés, beaucoup d'autres événements. L'époque de 60, c'était la découverte des institutions, l'horreur des institutions. Donc tout cela mis ensemble faisait que l'Arche pouvait grandir avec le soutien autant que possible. Alors, j'avais enseigné au Canada, beaucoup de mes étudiants venaient. Donc, au début, il y avait pas mal de Canadiens. L'église locale, par l'évêque, encourageait beaucoup. Mais je dirais de tout cela, le départ était facile. Les gens dans le village étaient proches de nous. Mais après, ils ont un peu peur.
Oui, évidemment.
Parce qu'on a commencé à avoir plusieurs. Voyez, ils craignaient qu'on va habiter trop le village. Mais enfin, maintenant, avec le village, c'est merveilleux. Enfin, on est ensemble très bien.
Oui, parce que vous avez parlé de cet essor des communautés dans ces années-là. Mais enfin, la plupart ont disparu. Mais l'Arche n'a pas disparu. L'Arche, au contraire, s'est développée. Vous avez créé d'autres, d'autres structures comme Foi et Lumière qui sont venues renforcer cela. C'est quand même un cas à part. Bien sûr, au départ, c'est un parmi d'autres, mais l'Arche, ça reste. Les autres ont disparu.
Foi et Lumière que j'ai fondée avec Marie-Hélène Mathieu de l'Office chrétien des handicapés. Tout cela a grandi, par exemple. Foi et Lumière, il y a 1600 communautés à travers le monde dans 80 pays. Parce que dans tous les pays, il y a les questions qui se posent. Quand j'ai commencé en Inde, il y avait le docteur Reddy qui était chargé de l'hôpital psychiatrique de Bangalore, qui était profondément intéressé parce qu'il savait que les hôpitaux psychiatriques n'étaient pas le lieu de garder des gens enfermés à toute leur vie, surtout des personnes avec un handicap mental. Et maintenant, aujourd'hui, avec les médicaments, des personnes atteintes d'une maladie mentale, il ne faut pas qu'ils restent dans les hôpitaux. Il faut trouver d'autres solutions. Et souvent, les solutions, c'est vivre avec.
Alors, malheureusement, je dirais, je n'en ai même pas vu le temps passer, mais cette émission touche à sa fin. Mais je ne voudrais pas clore cette émission avant que vous nous disiez, Jean Vanier. Alors, vous avez beaucoup parlé de ce que vous avez fait, de la manière dont vous l'avez fait, mais je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de ce que tous ces êtres à qui vous avez tant apporté vous ont apporté à vous. Parce que vous en parlez souvent et vous insistez pour que cette chose, cela qu'ils vous donnent, ne soit pas oublié.
Je dirais sur le plan personnel, ils m'ont aidé à devenir un enfant. Je crois que j'étais quelqu'un assez sérieux. comme prof de philosophie, d'une liberté dans la relation et aussi quelque chose de beaucoup plus profond, une vision du monde. Une vision du monde où l'important, c'est que le cœur doit grandir. Et un cœur qui est formé par la vie et par les sciences actuelles. J'ai beaucoup appris de psychiatres qui étaient ici, enfin, sur comment aider les gens qui étaient dans le monde de la violence, etc. Donc il y a toute une vision qui a changé. Je dirais ma lutte aujourd'hui, c'est comment être un homme de paix dans un monde de guerre. Et le monde de paix, c'est savoir accueillir l'autre. Tout ce qu'on avait dit au début de cette entrevue, l'écoute de l'autre, de découvrir l'accueil de l'autre différent, comment pardonner. Le cœur de l'Évangile, c'est tout simple. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez. Et un monde a besoin de trouver, je dirais, la puissance du pardon. Donc vivre en communauté, c'est un lieu où on apprend à pardonner tous les jours et 10 fois par jour.
Merci vraiment, vraiment infiniment, Jean Vanier, pour votre accueil, justement, pour ce témoignage, pour cet exemple, en fait, qu'est votre vie tout entière, consacrée aux autres et à l'amour. Et merci de nous avoir ouverts, au fond, à la meilleure part de nous-mêmes aussi, oui, en témoignant ainsi. Je rappelle à nos auditeurs que votre dernier ouvrage s'intitule « Jésus vulnérable ». On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est le point de départ de ce livre, c'est quand même le lavement des pieds, c'est-à-dire cet acte du Christ qui lave les pieds de ses propres disciples, chose au fond, symbole au fond que vous avez essayé de pratiquer toute votre vie. Donc c'est publié aux éditions Salvator. Et je signale aussi qu'en fait, que nos auditeurs pourront trouver toutes les informations nécessaires sur l'Arche, sur votre travail, sur votre bibliographie, et aussi comment ils peuvent eux-mêmes s'engager d'une façon ou d'une autre sur votre site jean-vanier.org, site dont la devise est « Transformer les cœurs », ce qui est évidemment aussi fait partie de nos devises ici aux Racines du Ciel. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lilian Var. Je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur notre site. Tout de suite, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.